en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui l'historien et romancier Max Gallo, qui a été reçu à l'Académie française en janvier 2008, et dont je dirais, si je peux me permettre un jugement personnel, que son univers se situe quelque part entre Jules Michelet, Ernest Lavisse et Alexandre Dumas. Max Gallo, qui vient de publier deux ouvrages dans la seconde partie de l'année 2009, chez Fayard, un livre intitulé Le roman des rois, un livre qui, à travers l'histoire des Villeneuve de Thorenc, raconte ce que fut le destin des trois grands rois capétiens qui ont marqué notre histoire de leur empreinte, Philippe Auguste, Saint-Louis et Philippe le Bel. Second ouvrage publié ce lillois par CNRS Éditions, il a pour titre « Histoire particulière » au pluriel. C'est un livre d'entretien réalisé avec le journaliste Paul-François Paoli et à travers lequel on apprend beaucoup de choses sur l'itinéraire de Max Gallo, sur sa perception de son activité d'historien et de romancier, et son regard sur la vie, sur notre société, sur la politique, etc., etc. Max Gallo, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle le principe de cette série, l'essentiel, cette question récurrente posée à tous les invités concernant leur itinéraire, leur milieu d'activité, leur regard sur le monde, leurs échecs éventuels et leurs motivations aujourd'hui. Rentrons, si vous le voulez bien, tout de suite dans le vif du sujet. Première question récurrente donc de cette série. Max Gallo, dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été jusqu'à présent, à vos yeux, le moment essentiel ?
Écoutez, le moment essentiel concerne un académicien malheureusement décédé et auquel j'ai succédé sur le 24e fauteuil, c'est-à-dire Jean-François Revel, auquel le hasard, le destin fait que j'ai rendu hommage à un homme qui a beaucoup compté dans ma vie, puisque c'était en 1968, au moment des événements de mai, j'étais professeur à la faculté des lettres de Nice, au contact des étudiants. Je n'ai pas été pris par l'illusion ou l'utopie du mouvement de mai, je me suis donc assez vite transformé, comme dirait Raymond Aron, en spectateur engagé. J'ai écrit un petit livre qui s'est appelé « Gauchisme, réformisme et révolution », et j'ai appris à ce moment-là que Jean-François Revel, que je ne connaissais pas, mais que je lisais depuis longtemps, avait lancé une collection aux éditions Robert Laffont qui s'appelait la collection Contestation. J'ai donc fait un paquet avec mon manuscrit, qui était un petit manuscrit, et je l'ai envoyé à Jean-François Revel par la poste, bien sûr, qui m'a répondu, qui m'a dit « je publie ça tout de suite ». Il l'a publié et quelques mois après, il m'a demandé si j'étais intéressé par la direction des collections d'histoire chez Robert Laffont. J'ai beaucoup hésité parce que j'étais finalement très bien installé à Nice, j'aimais enseigner, mes étudiants étaient sympathiques, mais le climat post-68 me déplaisait, comme j'avais pris une position, je dirais, médiane, je n'étais pas avec les mandarins, mais je n'étais pas non plus avec les étudiants. Bref, j'étais dans une situation un peu délicate sur le plan de mes rapports humains. J'ai accepté tout en restant prof à Nice, bien sûr, et j'ai donc, comme ça, pu pénétrer une maison d'édition, Robert Laffont, où j'ai rencontré un éditeur avec qui j'ai beaucoup tissé de liens très amicaux, Robert Laffont, avec Jean-François Revel, que j'ai connu et qui est devenu un ami très cher. Et voilà, le rêve qui était le mien depuis l'adolescence, c'est-à-dire d'être au milieu des livres, d'être soit Malraux, soit Hemingway, vous voyez, je dis cela avec évidemment un sourire.
Il y avait une très bonne collection chez Laffont, la collection Pavillon.
Absolument, hein. Un sourire. J'avais écrit beaucoup de romans, je n'en avais publié qu'un et encore à demi-compte d'auteur, chez un éditeur qui a disparu. Et là, je me suis trouvé donc au cœur de la place et j'ai donc pu, à partir de ce cœur, commencer à publier, à d'abord diriger des collections, en même temps publier. Bref, cette réponse tout à fait généreuse de Jean-François Revel a joué un rôle décisif dans ma vie parce que, bien sûr, j'ai quitté l'université un ou deux ans après. Il y a eu des bouleversements dans ma vie familiale parce que j'étais à Paris. Ma femme était professeure à la faculté des lettres de Nice aussi en philologie. Mais évidemment, la distance ne favorise pas le maintien des liens affectifs qui sont ceux qui doivent exister dans un mariage. Bref, ma vie personnelle a changé, ma vie professionnelle a changé. Tout a changé en 68 avec un lien indirect avec, évidemment, les événements de mai 68.
Alors, il y a eu, après peu de temps, après, il y a eu un événement extraordinaire aussi que vous auriez pu choisir. Votre premier grand succès, c'est 72, le cortège des vainqueurs. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en réalité, ce succès a été précédé d'un autre succès extraordinaire, d'un livre que vous aviez écrit, mais pour un autre. Et cet autre, c'était Martin Gray, et le livre s'appelle « Au nom de tous les
miens ». Tout à fait, mais ça, c'est une conséquence de l'événement que je viens de raconter, parce que je dirigeais à ce moment-là une collection qui avait été lancée depuis peu de temps, qui s'appelait « La collection vécue ». Je la dirigeais avec un homme extraordinaire qui s'appelait Charles Ronsac, qui était un homme qui avait fait de la résistance, qui avait subi et qui avait dû se cacher, qui était un journaliste dans l'âme. Et mon rôle de directeur de collection consistait, de la collection vécue, plus les collections d'histoire, consistait à trouver des sujets et des auteurs. Et comme à ce moment-là, je faisais le trajet Paris-Nice pour aller enseigner à ma faculté, dans les wagons-lits, à ce moment-là, on posait sur la couchette, on posait un journal que je ne lisais qu'à cette occasion, qui était François. Et François faisait un titre sur 8 colonnes en disant, voilà, Martin Gray, sa famille, ce survivant de Treblinka, cet ancien de l'armée soviétique, ce milliardaire américain, ce personnage extraordinaire, venait en effet de perdre toute sa famille dans les incendies de forêt qui s'étaient produits autour de sa maison, au Tanneron, c'est-à-dire près de Cannes. Et je me suis dit, voilà un sujet, ce personnage est extraordinaire. J'ai donc pris contact avec Martin Gray, qui était harcelé par d'autres directeurs de collection. Je ne pensais pas du tout écrire ce livre, je venais comme directeur de collection. Et puis Martin Gray me dit, je suis actuellement en relation avec Joseph Kessel, qui me propose d'écrire ma vie. Et à ce moment-là, je me suis dit, après tout, si Kessel, que j'admirais beaucoup, s'intéresse à ce sujet, veut écrire cette vie, pourquoi pas moi? Et j'ai dit à Martin Gray, écoutez, moi, j'écris ce livre. Et j'ai écrit en effet le livre dans un état d'exaltation et de tension extrême parce que je recueillais les confidences d'un homme vraiment brutalisé, tragiquement, personnage shakespearien, par la vie. J'ai donc enregistré, j'ai écrit. Et le livre, je n'étais pas ce qu'on appelle, un terme que j'aime beaucoup en anglais, je vais l'employer ici dans le siège de l'Académie, ghostwriter, c'est-à-dire écrivain fantôme. Je n'étais pas dissimulé puisque le livre était écrit sur la couverture, Martin Gray, récit recueilli par Max Gallo. Et ce livre a été vraiment un best-seller mondial. Un best-seller mondial qui m'a tout de suite donné une position très forte au sein des éditions Lafon, parce que j'étais celui qui avait eu l'idée du sujet, qui avait écrit le livre. Et donc, on a commencé à lire mes propres textes avec beaucoup plus d'attention, je dirais. Et surtout, psychologiquement, ça a joué un très grand rôle parce que ça a débloqué une écriture qui avait du mal à naître parce que les 5 ou 6 romans que j'avais écrits n'avaient pas trouvé d'éditeur.
Donc c'est là que vous avez commencé à rentrer dans le cortège des vainqueurs.
Et là, j'avais ce sujet en tête. Et je l'avais nourri, il était nourri par une thèse universitaire, par un livre d'histoire que j'avais écrit, 2 livres d'histoire sur la période mussolinienne, puisque le cortège des vainqueurs, c'est l'histoire d'un jeune Italien né en 1900 et qui va traverser toute la période du fascisme, de la guerre de 14-18, etc. Et ce livre a eu beaucoup de succès aussi.
Fascisme sur lequel vous avez fait votre thèse de doctorat.
Et j'ai nourri mon roman avec vraiment une documentation de première main. Et donc, j'avais une richesse documentaire à laquelle s'ajoutait le fait que, étant d'origine italienne, j'avais écouté mes parents, ma mère, raconter des épisodes de sa vie en Italie. Donc, j'ai été nourri à la fois par ma thèse de doctorat, par les récits familiaux et par la dynamique propre de l'écriture.
Deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel, qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire sur votre domaine d'activité aujourd'hui, donc celui de à la fois romancier et historien, et ce que vous faites vous-même dans ce domaine-là actuellement, si vous aviez une chose à dire?
C'est très difficile votre question, votre réponse, parce que si j'ai une chose à dire, c'est que je ne suis pas du tout, hélas, peut-on dire, bien que vous ayez cité son nom et que je l'admire et que je l'ai lu comme enfant, comme adolescent, Alexandre Dumas, je ne suis pas du tout dans la lignée d'Alexandre Dumas.
Non, vous respectez un peu plus la vérité historique.
Non, c'est-à-dire que réellement, peut-être à cause d'un surmoi universitaire le surmoi de quelqu'un qui a fait de l'histoire savante à un moment donné. Mon souci, c'est de respecter les événements, les situations, autrement dit, de ne jamais me départir dans mon récit de ce qui est attesté par la recherche. Mais, effectivement, c'est une comparaison qui m'est déjà arrivée d'utiliser. Si vous voulez, ma réflexion sur l'histoire, ma réflexion d'historien universitaire, je dirais, c'est que on n'épuise jamais un sujet quand on fait de l'histoire savante. Pour une raison simple, c'est qu'on est tenu par les sources. On n'invente pas, on ne fait pas d'hypothèses, on est tenu de respecter la source, de l'utiliser, de l'exploiter, bien entendu, mais en même temps, cette source n'est qu'un îlot dans un océan qu'est la vie passée, si vous voulez. Et moi, comme romancier, cette fois-ci, je ne me contente pas de cet îlot, je formule des hypothèses que j'estime des hypothèses rigoureuses, un peu comme un astronome qui regarde le mouvement des étoiles, et qui, à partir de son observation, dit « à tel endroit, il doit y avoir telle planète ». Parce que je vois telle trajectoire, je ne vois pas la planète, mais je vois la trajectoire. Et donc, j'essaie d'être rigoureux. Autrement dit, mon idéal, ce serait ceci, c'est que le spécialiste historien de la période que je traite dans ce que j'appelle un roman-histoire ou une histoire-roman n'aurait rien à redire sur le fond historique et documentaire qui sert de socle à mon travail de romancier.
Mais en même temps, vous apportez quelque chose de plus que l'historien. Enfin là, je ne parle pas de Michelet, hein, parce que Michelet, lui, l'apportait aussi. C'est le côté charnel, le côté
oui,
cœur,
tout
il y a
à fait.
L'intelligence.
Non,
a...
mais tout à fait. Et en plus, j'appartiens à une génération, les générations des étudiants qui ont été en histoire, qui ont été surplombées, je dirais, par l'école des annales de Brodel, c'est-à-dire une école... On peut l'appeler une école surgie, née ou en relation avec le marxisme, même si elle n'était pas la victime. C'est une école dans laquelle, et les marxistes historiens qui enseignaient, dont j'ai reçu l'enseignement à la Sorbonne, notamment sur la Révolution française, par exemple, d'Albert Soboul, le spécialiste qui était en même temps marxiste, communiste, qui avait fait une thèse considérable, dans laquelle, si vous voulez, on privilégie non pas les individus, le rôle des individus, particulier, mais où on privilégiait les grands mouvements tectoniques. C'est-à-dire que si vous prenez, je prends souvent cet exemple, parce que j'ai écrit une biographie, après d'autres bien sûr, et avant d'autres, une biographie de Napoléon en 4 volumes, quand vous prenez un volume de la collection qui était la collection universitaire dont on ne pouvait pas se détourner, qui s'appelait « Peuple et civilisation », le volume qui s'intitule « Napoléon », qui était écrit par un grand historien de cette période qui s'appelle Georges Lefebvre, le personnage Napoléon, sur 700 pages, doit occuper 5-6 pages. Pour le reste, c'est la bourgeoisie, les forces, les mouvements, etc. Et ça, c'était en contradiction, et ça, je l'avais déjà subi étant étudiant à Paris, c'était en contradiction avec ma propre sensibilité. Moi, j'appartiens à l'école de Marc Bloch, qui dit, il a une phrase célèbre, mais très exacte, l'historien est comme l'ogre de la fable, il n'aime que la chair vive. Et moi, je crois précisément à l'utilité, au caractère indispensable de faire surgir les personnalités et d'essayer de les comprendre. D'ailleurs, mon premier livre que j'avais écrit, alors que je venais de terminer de passer seulement à l'agrégation, et donc c'était très mal vu dans le monde universitaire que je me lance dans un très gros livre, s'appelait non pas l'histoire du fascisme italien ou de l'Italie fasciste, s'appelait l'Italie de Mussolini. C'est-à-dire que je m'intéressais au personnage Mussolini. Le reste aussi, mais le personnage m'intéressait.
Troisième question récurrente de notre série L'Essentiel. Alors, on va élargir les perspectives à votre regard sur l'évolution du monde en général et surtout sur l'évolution de notre société française en particulier. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire aujourd'hui sur cette société? Si vous aviez une chose à dire, c'est un jeu bien sûr, hein, c'est pas une thèse.
Une chose à dire, écoutez, c'est que notre société française, comme toutes les sociétés, mais enfin je l'ai appris en faisant de l'histoire, c'est la fragilité de cette société. Autrement dit, je crois que la démocratie, le fonctionnement d'une société démocratique est un fonctionnement toujours menacé. La démocratie, c'est-à-dire le non-recours à la violence, est une mince couche d'huile sur un océan de violence. Et si on met le doigt dans un engrenage, si on favorise la violence par son discours, on porte une responsabilité majeure. Et je crois que ça, c'est une idée que j'ai toujours mise en œuvre dès que j'ai eu une plume à la main. J'ai toujours essayé, c'est mon éthique, de ne pas favoriser le fanatisme, de ne pas favoriser la violence, de ne pas faire l'apologie de la violence. Et je crois que c'est le devoir que je me suis, enfin qui m'est devenu naturellement, ou en tout cas que je crois avoir respecté, le devoir de l'intellectuel, c'est-à-dire, ou de celui simplement qui a la possibilité de parler, de communiquer, de ne pas favoriser les solutions qui peuvent, ou de faire l'apologie des solutions qui conduisent à la violence, parce que les sociétés sont fragiles.
Vous parlez de fragilité, il y a un texte de vous donc, qui a été publié dans le Figaro du 30 octobre et destiné au grand débat donc, d'une fondation sur le thème de l'identité nationale. Et vous disiez que l'identité nationale française pouvait être appréhendée à travers 10 thèmes. Et le point numéro 7, vous disiez l'éclatement.
Oui, exactement. La fragmentation, l'éclatement, alors ça c'est très spécifique à la France, c'est vrai de toutes les sociétés. On l'a vu dans l'entre-deux-guerres, il suffit d'avoir étudié l'entre-deux-guerres, ce que j'ai fait 10 fois, pour voir que les sociétés qui paraissent les plus stables sont en fait d'une fragilité épouvantable. Qui aurait pu penser dans les années 25, je dis bien 1925, que l'Allemagne allait être à l'origine de cette destruction de millions d'hommes qu'on appelle la Shoah. Personne. Ou du surgissement d'une régression intellectuelle dans les mœurs. Bref, du gouvernement de la violence qui gouverne la société. Donc, en plus, spécifiquement, la France est un pays où le discours sur la violence est un discours qui fascine des petits groupes. Mais ces petits groupes suffisent parfois pour entraîner toute la société dans une fragmentation dangereuse.
Alors vous parlez de fragmentation. Quand on lit la tribune que Nicolas Sarkozy a publiée dans Le Monde datée du 9 décembre 2009, donc, on a l'impression qu'il a lu très près justement votre contribution dont je viens de parler donc, au débat lancé par l'Institut Montaigne. Et Nicolas Sarkozy met en avant sa préférence pour une république métissée. Vous avez l'impression, vous, que cela est conforme à la réalité de notre histoire, cette exigence d'une république métissée ?
Écoutez, je crois que c'est la meilleure solution. Je souhaite qu'elle s'impose, parce que les autres solutions sont des solutions pires. Il n'y a pas de solution idéale en société. Quand on réfléchit à la société, au fonctionnement, il n'y a que des solutions qui sont moins mauvaises que les autres.
Y compris l'assimilation, ou elle est impossible, celle-là ?
Mais l'assimilation, d'ailleurs, je crois qu'il y a une phrase dans cette tribune que, personnellement, j'ai trouvée tout à fait remarquable, même si elle est très critiquée, mais c'est normal. C'est le jeu de l'opposition ou des opposants. Si vous voulez, puisque je crois que dans une phrase, il indique que il emploie le mot assimilation à un moment donné en disant cette intégration, ce recours au métissage, c'est la voie vers une, c'est l'expression qu'il emploie, assimilation réussie. Évidemment, c'est-à-dire, il dit il faut à la fois que les arrivants prennent conscience qu'ils ont des efforts à faire, que ceux qui sont déjà là prennent conscience qu'ils doivent respecter les droits des arrivants et les traiter comme des égaux. Et dit-il, si cela se passe, on arrivera à une assimilation réussie, ce qui est toujours problématique et ce qui est toujours très lent. Or, nous sommes une société impatiente, nous sommes des sociétés impatientes qui vivons dans l'instant, dans l'instantanéité même. Et je crois que l'assimilation, l'intégration de communautés différentes, d'individus qui arrivent de d'autres univers, structurés par des forces différentes de celles dont nous avons l'habitude qu'elles nous structurent. On voudrait que l'assimilation soit immédiate, ça n'est pas vrai. L'assimilation est très lente et je vais vous faire, non pas une confidence, mais une réflexion, c'est que c'est vrai de toutes les immigrations. C'est-à-dire les Italiens, par exemple, que je connais bien, puisque je suis mes parents étaient originaires de cette immigration vers la fin du 19e siècle, ou au début du 20e.
C'est un peu ce que vous avez raconté avec la saga des Révelli, la baie des
Anges. Absolument, absolument. On se rend compte qu'il reste en vous, même si on est né en France, si mon père était déjà né en France, il reste en vous une part irréductible du pays d'origine.
Vous le dites d'ailleurs dans votre chronique, là, il y a cette phrase extraordinaire, le Français est aussi ce citoyen qui porte en lui quelque chose d'étranger.
Une part d'étranger, peut-être. Je ne sais pas si je dis quelque chose.
Si, ou... vous avez dit, enfin, le journal peut-être... a écrit quelque chose d'étranger.
Ah bon, d'accord.
Ouais. C'est extraordinaire.
Ah non, mais je crois que c'est...
C'est un enrichissement.
Et c'est un enrichissement, parce que l'assimilation réussie ne suppose pas que l'on détruise en soi une forme de nostalgie, une mémoire particulière, des goûts particuliers et même des religions différentes. Donc cette part, en même temps, si elle n'empêche pas l'assimilation, cette part est un enrichissement pour la communauté nationale dans son ensemble. Pensez par exemple, Zola, dont Barrès disait qu'entre lui et Zola, il y avait une frontière, c'était celle des Alpes. Zola, finalement, a écrit sa saga, employons ce mot saga, son histoire des Rougon-Macquart. La violence, l'épique qui se trouve dans ses livres, la dimension un peu énorme, elle doit, à mon avis, beaucoup à ses origines, à cette sensibilité particulière. Balzac était déjà le cas, mais c'est une autre manière d'aborder la complexité du monde. Je crois que l'apport de l'étranger est un apport positif à la condition qu'il y ait assimilation.
Alors, vous parlez et vous affirmez, vous, l'existence d'une exception française. Vous le faites contre ce que vous appelez les réalistes. Mais en reprenant les 10 points que vous avez inventoriés, on ne va pas les reprendre les 10, hein, mais on a l'impression que ce qui fait vraiment cette originalité, est-ce que ce n'est pas une perception française de la laïcité, finalement ?
Bien sûr, c'est un aspect fort. Il y a deux choses, au fond, qui nous définissent. C'est d'une part l'emploi du français, la langue française, qui est tout à fait le socle de toutes les identités ou la clé de voûte de toutes les identités.
Et de ce point de vue-là, vous êtes très inquiet de la charte européenne
sur les langues régionales.
Les langues régionales.
Inquiet, oui, parce que, enfin, inquiet, il faut prendre tout ça avec mesure. Mais en même temps, je crois que la défense de la langue française, ou en tout cas le regard sur cette langue, est capital parce que parler une langue, c'est penser d'une certaine façon. On ne pense pas, je parle par exemple très bien ma langue maternelle, la langue de ma mère, c'était l'italien. Donc quand je parle italien, je sais que je ne pense plus de la même manière. Je ne pense plus de la même manière parce que c'est une autre langue, donc c'est une façon de penser différente. Ce serait vrai de l'allemand, ce serait vrai du néerlandais, bref. Et donc la langue est importante. Et le deuxième élément, c'est celui que vous soulignez, la laïcité, c'est-à-dire le lent travail pluriséculaire qui nous a conduit, après des guerres de religion, après la Saint-Barthélemy, le massacre de Vassy, bref, Agrippa d'Aubigné, la violence, les tragiques périodes que nous avons traversé à propos de conflits entre des religions, toutes les deux chrétiennes, n'oublions pas cela. Il ne s'agissait pas de musulmans, il s'agissait simplement de gens qui appartenaient à la religion prétendument réformée, mais qui n'en étaient pas moins des chrétiens. Or, notre expérience de l'édit de Nantes, puis de sa suppression de l'édit de Nantes, le départ, la violence, les dragonnades, fait que dans notre mémoire, au fond, la laïcité, peu à peu, s'est imposée comme la solution à ces problèmes de violence entre communautés.
Est-ce qu'on ne peut pas dire, en vous écoutant, l'idée me vient, que l'une des dates les plus positives de notre histoire, c'est 1905, cette loi de séparation de l'Église et de l'État, et que même elle a rendu un immense service à l'Église et aux chrétiens.
En tout cas, je ne sais pas si c'est la date la plus importante, j'ai toujours un peu de réserve.
Non, mais pas la plus importante, mais est-ce que ça n'est pas une date capitale ?
Ah, c'est une date capitale. C'est une date capitale très anticipatrice. On s'en rend compte, si vous voulez, au XXIe siècle, quand précisément les transferts de population qui s'opèrent inéluctablement nous mettent en contact avec des hommes et des femmes citoyens français, mais qui ont une autre religion, on se rend compte que la clé de la cohabitation et de l'assimilation, c'est la laïcité. N'imaginons pas d'ailleurs que cela remonte à 1905. En fait, pensez ceci, c'est que le 19 mai 1940, au moment où la défaite est déjà là, très visible, le gouvernement français, les corps constitués, s'en vont à Notre-Dame, écouter une messe pour réclamer la protection de Dieu sur la France. Paul Reynaud en tête, tout ce monde ensuite monte la colline Sainte-Geneviève et s'en va jusqu'à Saint-Étienne-du-Mont où il y a les reliques de Sainte-Geneviève qui a, vous le savez, détourné les hordes d'Attila qui devaient prendre Paris vers 450 après Jésus-Christ. C'est dire que notre imprégnation dans un rapport intime avec la religion durait encore 40 ans après la séparation de l'Église et de l'État.
Lorsque l'on regarde dans votre bibliographie impressionnante, hein, une centaine de livres, les titres de plusieurs de vos ouvrages, « Fier d'être français »,« L'âme de la France »,« L'amour de la France expliqué à mon fils », on peut dire que la France est pour vous une véritable passion.
Oui, mais je crois que ça s'explique, peut-être pour des raisons personnelles, mais enfin des raisons intimes que j'ai peut-être mal élucidées, mais historiquement, ça s'explique facilement. Je suis né en 1932, hélas, c'est-à-dire que j'avais 8 ans en 1940 et 12 ans en 1944. Et moi, l'image que j'ai de la France, outre que mon père faisait de la résistance, que j'ai appris après, mais j'étais quand même sensible à l'atmosphère qui régnait chez moi.
Votre père était un communiste
Non, pas dur, était un communiste qui s'appelait libertaire. Ouais. C'est dire qu'il était lui aussi.
D'une sincérité totale.
Absolument.
Que choquait l'État de tout ce qu'il pouvait voir dans les hôtels de Nice quand il y allait travailler, c'est ça, hein ?
Oui. Mais je veux dire par là que moi, j'ai vécu la libération de Nice comme un voyeur, acteur, puisque je courais d'une barricade à l'autre. C'était des combats, pas très sévères, mais de réels combats. Et pour moi, la France a été cette libération et a été en même temps la vision d'un pays fier de lui-même. Je n'ai pas vécu, j'étais trop jeune pour vivre dans la douleur, la défaite,
40, oui.
Mais au contraire, j'ai vécu avec une France qui se donnait l'illusion d'être victorieuse. En tout cas, elle était dans le camp des vainqueurs. Et toute la presse, même la presse communiste à l'époque, je l'ai remarqué depuis, ne portait que des titres qui étaient des titres patriotiques. Le journal de gauche communisant des Alpes-Maritimes s'appelait Le Patriote de Nice et du Sud-Est. Mais en Savoie, il s'appelait Les Allobroges. Mais à Marseille, il s'appelait La Marseillaise. Mais le journal intellectuel s'appelait Les Lettres Françaises. Mais le journal théorique du Parti communiste s'appelait France Nouvelle. Et il y avait donc, si vous voulez, il y a eu comme ça pendant quelques années, ou quelques mois, mais quelques années, il y a eu une atmosphère de fierté française succédant à cet abîme qu'avait été la débâcle. Je crois que j'appartiens en effet à une génération qui a été nourrie autour de sa 10e année par cette vision d'une France fière d'elle-même et non pas repentante.
Alors, ce qu'il y a de particulièrement intéressant quand on connaît votre itinéraire, vous avez commencé comme votre père par être communiste, vous avez vous rompu avec le communisme en 1956, si j'ai bonne mémoire.
Même avant.
C'était en tous les cas
autour
au moins
de ces
au moment
années-là.
De l'affaire de Budapest, oui. La Hongrie. Et c'est d'autant plus intéressant de voir comment vous dites que aimer la France, c'est l'assumer dans sa totalité. Et vous dites même, j'assume Thiers, Céline et Brasillac.
Oui, mais ça ne veut pas dire que j'approuve.
Non, mais
c'est très important.
C'est la page de la phrase de Renan sur les feuilles.
Voilà, il faut tout assumer. Il faut assumer, c'est-à-dire qu'il faut regarder. Je suis pour regarder en face, y compris les cruautés, les crimes, les aberrations que la France ou des Français ont pu commettre. Il ne s'agit pas de dissimuler tout cela sous le tapis, en repoussant la poussière sous le tapis. Je crois qu'il faut regarder, assumer, pour moi, c'est cela. C'est-à-dire, à la fois, tenir compte de l'attitude de la police parisienne le 16 juillet 1942, au moment de la rafle du Vel'd'Hiv. Et puis, il faut tenir compte aussi du fait que cette police parisienne, au moment de la libération, elle a eu un comportement exemplaire. Il faut les deux, à la fois. Il faut tenir et ne pas voir un seul côté de cette réalité. Et là, je crois que j'ai une sorte d'habitude qui m'a été donnée, je ne sais pas comment, mais qui remonte vraiment à l'enfance. Peut-être une anecdote que je raconte dans un de ces livres, peut-être dans l'histoire particulière que vous avez mentionnée. C'est vrai que j'ai vu arriver chez moi des parents éloignés qui appartenaient à l'armée d'occupation italienne, qui étaient des parents. Quelque temps après, j'ai vu arriver trois GI qui appartenaient aussi à une famille gallo, mais qui avait continué son périple vers les États-Unis. Et donc, si vous voulez, j'ai appris j'ai appris, j'ai découvert la complexité de la réalité historique et comment il faut tenir compte à la fois du noir et du blanc, c'est-à-dire du positif et du négatif.
Quatrième question récurrente de notre série L'Essentiel. Pour vous, quelle est, et évidemment, prenez la question avec sa part de jeu, hein, quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps ?
Je suis tout à fait incapable de répondre à cette question, ce qui veut dire des choses. C'est précisément le fait de diaboliser. Alors, est-ce que c'est une hypocrisie ? C'est de diaboliser l'autre, c'est-à-dire de ne vouloir absolument regarder qu'un aspect des choses. Pour moi, c'est une très grande hypocrisie. Par exemple, quand le débat sur l'identité nationale a été lancé, on peut en penser ce qu'on veut, il y a des commentateurs qui ont dit « Mais à quoi ça rime d'ouvrir ce débat ? Nous savons tous qui nous sommes. Il n'y a pas de problème d'identité nationale. » C'est une hypocrisie. Ou c'est de la cécité, ou c'est un mensonge, ou c'est de l'hypocrisie. Je crois qu'il y a un refus de voir, un refus de dire. Et dans sa chronique, d'ailleurs, je crois que Sarkozy, au fond, c'est ce qu'il dit à sa manière. Quand il analyse, et beaucoup se sont gaussés de la place qu'il accorde à cette question, quand il analyse le vote des Suisses à propos de la question des minarets, en disant que, et en effet, c'est très intéressant, parce que vous avez tous les instituts de sondage, tous les éditorialistes, tous les commentateurs qui, à la veille du scrutin, étaient persuadés qu'il n'y avait pas de problème, que le vote allait être négatif, autrement dit que les partisans de la suppression, enfin de la non-construction des minarets allaient être battus. Pourquoi ? Parce que par facilité, par hypocrisie, par souci de ne pas dire ce qui est, on arrive à ne pas le voir. Et cette hypocrisie conduit à des cataclysmes. Par exemple, je peux citer, c'est de la politique, mais après tout, elle fait partie de la réflexion sur l'histoire. En 2002, personne n'imaginait que le représentant, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, candidat à la présidence de la République, socialiste, figure emblématique d'un parti important, démocratique, allait être dépassé par Le Pen. Personne ne l'imaginait. Pourquoi ? Parce qu'on avait refoulé loin, profondément, avec hypocrisie et volonté de ne pas dire la réalité, c'est ça l'hypocrisie, on avait refoulé les problèmes posés par l'existence d'un mouvement comme celui de Le Pen, ce qu'il révélait de la société française.
Cinquième question récurrente de notre série L'Essentiel, quel est l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse le plus d'espoir ?
Je pourrais dire que c'est le taux de natalité française qui est élevé, parce que ça signifie que ce pays, comme le dit souvent le général de Gaulle, passe de l'abîme à l'espérance et qu'au fond de lui, il y a quelque chose d'indestructible. Il y a une force de renouvellement qui est tout à fait extraordinaire. Vous savez, une image me vient parce que j'ai beaucoup étudié l'année 1940, enfin la Deuxième Guerre mondiale. Le général Keitel, qui était le chef d'état-major allemand, quand il s'est trouvé le 8 ou 9 mai 1945 à Berlin pour signer l'acte de capitulation, il s'est exclamé en voyant entrer un officier français, il a dit « Ah ! Les Français aussi. » Et c'est vrai que c'était tout à fait impensable en 1940 d'imaginer qu'un Français, je crois que c'était le général de la de Tassigny, allait pouvoir participer à la signature de la reddition de l'Allemagne. C'est dire que, je vais d'abord parler de natalité, c'est dire que ce qui me rend optimiste, c'est qu'il y a de grandes ressources dans ce pays.
Vous avez parlé du général de Gaulle. Alors, on sait votre passion pour les grands hommes, hein, toutes les biographies écrites de Gaulle, Napoléon, Victor Hugo, mais aussi Robespierre, Garibaldi, Jaurès et j'en passe. Alors, ce qui est étonnant, je reviens sur votre itinéraire. Donc, le marxiste que vous avez été croit au rôle décisif des individus dans l'histoire ?
Dans votre phrase, il y a la contradiction de ce que vous dites, car je n'ai jamais été vraiment un marxiste orthodoxe. Je vous ai expliqué que dès mes études, dès la Sorbonne, j'étais extrêmement réticent devant cette disparition de ce qu'on appelait l'homme providentiel. Moi, je ne crois pas aux hommes providentiels, mais je crois au rôle des hommes. Et ça s'inscrit dans ma conception même de la vie. Je crois, si vous voulez, à la liberté de chacun d'entre nous, c'est-à-dire à sa responsabilité. Et je crois qu'il y a cette capacité de création chez les individus qui est tout à fait décisive et que De Gaulle, puisque c'est à partir de lui que vous posiez cette question, et que De Gaulle est un exemple extraordinaire de cette capacité de la volonté d'un individu capable de tordre les déterminismes, de s'y échapper. Je crois profond, en tout cas pour dire les choses simplement, je crois à la liberté de chacun d'entre nous, donc à sa responsabilité, ce qui veut dire comme conséquence pour moi que je ne crois qu'à une seule loi dans l'histoire qui est la loi de la surprise. Autrement dit, ce n'est pas une loi. Je ne crois pas que les déterminismes imposent mécaniquement une orientation ou une autre. Il y a toujours la capacité de la surprise qui est elle-même arrimée à la notion de liberté créatrice de l'individu.
Autrement dit, l'explication totalement logique ne vient qu'a posteriori, quoi.
Exactement, elle vient a posteriori. Si vous prenez un exemple fulgurant, si j'ose dire, c'est les deux tours, les Twin Towers, qui sont détruites par ces avions détournés, ces deux avions. A posteriori, nous pouvons faire l'analyse des raisons, du cheminement des individus. Mais s'il ne s'était pas trouvé une quinzaine d'individus ou une trentaine, libres de leur choix à l'intérieur de leur propre fanatisme, mais libres de choisir d'agir contre toutes les logiques, ça ne se serait pas produit. Après coup, on peut dire oui, mais on peut analyser, mais la prophétie se fait souvent sur le passé. A posteriori, c'est pour ça qu'être historien, c'est reposant, parce qu'on travaille sur des événements qui ont déjà déroulé leurs conséquences.
Il y a quelques jours, le président de la République vous a remis la cravate de commandeur de la Légion d'honneur. La date choisie était symbolique, puisqu'il s'agissait du 2 décembre, date du sacre de Napoléon, date aussi d'Austerlitz.
Date aussi du coup d'État de Louis-Napoléon,
oui.
Bonaparte.
Le petit Louis. De tous les grands hommes qui vous fascinent, est-ce que c'est vraiment Napoléon qui vous touche le plus ?
Ah non, pas du tout. Napoléon, je le regarde avec fascination parce que c'est une énergie, parce que, comme il dit, sa vie est celle d'un météore, et que c'est extraordinaire de penser que cet homme, né l'année où les troupes françaises font la conquête de la Corse en 1769, qui parle mal le français, qui l'écrit mal, qui est finalement un immigré ou un vaincu, un colonisé d'une certaine manière, va se trouver premier consul, puis consul à vie, puis empereur des Français, et plébiscité par cela. Non, le personnage qui déclenche chez moi plus que de l'admiration, plus que de la fascination, mais une tendresse presque inexplicable, c'est De Gaulle. Je dois dire que c'est de tous les personnages que j'ai essayé de peindre et de comprendre, c'est celui qui me touche le plus.
Parce qu'il se donnait entièrement à la nation,
parce qu'il... Non, parce que je vous renvoie à une photo célèbre que vous connaissez sûrement. Sur la plage de Berck, on voit le général De Gaulle en costume croisé de bon notable, avec un chapeau de feutre sur la tête, à bord relevé, et il a dans ses bras sa fille Anne, handicapée lourde, et qu'il allait voir chaque jour. Donc il y a chez De Gaulle une dimension, je vais vous faire sourire, enfin ceux auxquels je dis ça se me prennent tout à fait pour un peu déranger, pour faire comprendre ce que je veux dire, je pense qu'au XIIe ou au XIIIe siècle, De Gaulle aurait été sanctifié. Nous sommes dans une autre période, mais je crois que cet homme était écrasé, et surmontant évidemment cet écrasement, était écrasé par le sentiment du devoir et du destin qu'il devait assumer parce qu'il le devait du point de vue d'une ambition qui dépassait largement son ambition personnelle, qui était une ambition pour la France, c'est-à-dire pour un objectif dépassant sa propre vie, et avec en même temps une sensibilité aiguë, maîtrisée. Il y a une phrase d'Alain Perfit qui est extraordinaire de justesse, qui dit ceci: De Gaulle, un homme qui habitait sa statue. Je crois qu'il y avait la statue, puis il y avait l'homme, et moi je suis très, très sensible à ce personnage. Je relis souvent ses textes. Chaque fois, je suis ému, emporté par ces phrases que mon prédécesseur sur le 24e fauteuil de l'Académie française détestait, Jean-François Revel, qui avait écrit un petit pamphlet qui s'appelait « Le style du général », dans lequel il ridiculisait, je ne dirais pas à bon droit, mais avec talent en tout cas, ce style
vocabulaire ternaire,
emphatique, Paris, libéré par lui-même, avec les forces, etc. Et moi, au contraire, je suis jamais saturé de cette lecture.
Bon, ben vous vous retrouverez un jour avec Jean-François Revel, vous pourrez régler vos comptes entre amis.
Mais on l'a déjà fait.
Il ne nous reste que 10 minutes, malheureusement, pour les deux dernières questions. Sixième question, donc, de notre série L'Essentiel. Max Gallo, quel a été le plus, si vous acceptez de répondre à cette question qui est évidemment très personnelle, hein, quel a été le plus grand échec de votre vie et comment l'avez-vous surmonté ou avez-vous tenté de le surmonter ?
Écoutez, l'échec de ma vie, j'en ai déjà parlé avec réticence, mais j'en parle chaque fois, donc ma réticence devient une pause narcissique presque. C'est le suicide de ma fille. J'avais une fille qui s'est suicidée quand elle avait 16 ans. Je considère que, même si cela peut paraître une pause, si vous voulez, que ma vie est profondément un échec. Même si je peux mettre mon diplôme de mécanicien ajusteur, qui est mon premier diplôme scolaire, à côté du diplôme de commandeur de la Légion d'honneur, en réalité, au fond de moi, je le dis calmement, parce que ça ne m'a pas empêché de vivre et de vivre longtemps, puisqu'elle s'est suicidée en 1972 et nous sommes en 2010, au fond de moi, il y a une sorte de sentiment que tout ça n'a pas d'importance, tout ce que j'ai réalisé, et probablement je me suis enfoui dans le travail précisément comme une issue, comme une voie d'aveuglement ou de non-réflexion sur cet événement qui est évidemment un événement qui scelle mon échec.
Mais puisque vous acceptez d'en parler, et j'ai là sous les yeux un texte que vous y avez consacré, je vais vous poser une question qui est encore plus personnelle, encore plus indiscrète. Vous attribuez donc le suicide de votre fille au fait que vous vous êtes laissé embarquer par votre propre ambition intellectuelle, le destin que vous vous voyez sur ce plan-là. Aujourd'hui, franchement, si vous aviez à revenir à l'âge où elle avait 15 ans, vous ne feriez pas le même choix quant à votre destin intellectuel ? Vous seriez resté à Nice ?
Je ne crois pas, non. Je crois qu'il y avait...
Il faut accepter. Là, vous êtes en train de dire qu'il faut accepter sa propre fatalité. Alors.
Non, ce n'est pas sa propre fatalité. C'est cette espèce d'énergie qu'on porte en soi et qui aveugle d'une certaine manière, qui fait que, je crois que c'est dans cette page auquel vous faites allusion que je le dis, qui fait que celui qui veut créer, mais quelle que soit la qualité de ce qu'il crée, bien entendu, ça peut être modeste, médiocre, ou au contraire génial, est emporté par une sorte de surmoi. Il porte en lui une espèce, ce que j'appelle un égoïsme sacré, qui est une sorte d'impossibilité de renoncer à ça, sinon mourir. Donc, d'une certaine manière, là, mais le choix est toujours assez lucide, c'est-à-dire que finalement, je n'ai jamais pensé. Je me souviens très bien dans cette période, puisqu'il y avait eu des signes quand même qui ont attiré mon attention, mais je faisais confiance à l'intelligence de cet enfant qui était très intelligente. Je faisais confiance à l'intelligence, je ne mesurais pas les forces de destruction, si vous voulez. Je faisais confiance à la vie, en somme, au mouvement de la vie. Mais ça n'empêche pas qu'il ne s'agit pas là de circonstances atténuantes.
J'ai effectivement sous les yeux ce texte superbe que vous avez écrit. C'est donc dans votre livre « Histoire particulière ». Cet égoïsme que suppose le travail de l'écrivain ou celui de l'artiste, quand on place son œuvre au premier plan, l'œuvre fut-elle modeste et plus fort que tout, j'avais à l'intérieur de moi un bloc de béton où gisait cet égoïsme sacré dont parle Nietzsche. Je sais que cela peut paraître scandaleux, mais c'est ainsi. Voilà le texte. Max Gallo, septième et dernière question de notre série L'Essentiel. Aujourd'hui, quelle est votre motivation essentielle dans la vie ?
Écoutez, c'est essayer d'exprimer encore ce que je ressens comme indispensable, à dire. Voilà. Et l'âge qui est le mien, c'est peut-être aussi l'impossibilité de rompre avec un certain nombre d'habitudes qui se sont créées au fil des ans, je veux dire.
C'est-à-dire comme l'écriture ?
Comme l'écriture, par exemple. C'est un peu comme celui qui court tous les jours. Si vous courez tous les jours, ce qui n'est plus mon cas, vous savez que quand on cesse de courir un jour, on a l'impression d'étouffer, il nous manque quelque chose. Et moi, quand je n'écris pas mes quelques milliers de signes chaque jour, j'ai le sentiment que mon existence ne vaut rien.
Oui, vous avez écrit quand même une centaine de livres. Ça fait, si on fait un calcul, 4000 mots par jour et 2500 pages par an. Tout ça, donc, depuis 45 ans. C'est vraiment un engagement extraordinaire. Alors, de ce point de vue, on sent que les livres vous ont marqué au plus profond de vos tripes, si je peux employer cette expression. Est-ce qu'on peut dire que le personnage auquel vous vous identifiez le plus dans l'histoire de la littérature est ce personnage extraordinaire de Jack London qui s'appelle Martin Eden ?
En tout cas, c'est celui qui m'a beaucoup marqué, puisque j'ai lu ce livre plusieurs fois, qu'il symbolisait au fond, qu'il me faisait rêver un parcours, mais un parcours qui se terminait mal, puisque Jack London se suicide dans la baie d'Auckland. Il part en bateau, à rame, et puis il plonge et pousse au loin son bateau. Ce sont les dernières pages du livre. C'est-à-dire qu'il plonge, et chaque fois la force de la vie le ramène à la surface, puis finalement, il réussit ce qu'il avait voulu faire. En effet, Martin Eden a été un de mes modèles.
Mmh. Mais ce qu'il y a de curieux chez London, c'est qu'il y a cette lutte permanente contre le fatalisme social, et puis derrière, il y a le suicide.
Non, parce que je crois que les deux ne sont pas incompatibles, parce que précisément, quand on a fait un certain parcours, qu'on mesure, imaginons que l'objectif soit atteint, à ce moment-là, on en mesure toute la vanité, et ce ne sont pas des mots. C'est-à-dire que cette réussite, entre guillemets, d'ailleurs, j'aime pas ce mot réussite, mais enfin, ce parcours ayant été accompli, on pourrait presque dire tout ça pour ça, même si on n'a pas à le regretter. D'ailleurs, moi, je n'ai pas de regret de ce point de vue-là, puisque je ne crois pas à... Je n'ai pas de regret, j'ai choisi chaque fois avec un maximum de lucidité, même si ça comportait une part d'aveuglement. Mais je comprends... j'étais très marqué par ce livre de London, parce que, justement, il y avait à la fois le parcours qui m'intéressait, la réussite ou le parcours, et au terme, il y avait quand même... la découverte de la vanité de ce parcours, de l'interrogation sur est-ce que tout ça valait la peine, est-ce que ça valait la peine de sacrifier la vie des autres.
Alors il y a London, mais il y a aussi quelqu'un qui vous a profondément marqué, c'est Gramsci, et il y a une phrase de lui que vous citez de temps à autre, et à travers laquelle vous vous définissez comme un pessimiste actif. Et la phrase de Gramsci,
oui,
je l'ai retrouvée, enfin, vous la connaissez par cœur, je suppose.
Le pessimisme de la raison, c'est l'optimisme de la volonté.
Voilà.
Je ne voyais pas à quelle phrase vous faisiez allusion, parce qu'il y en a beaucoup de Gramsci qui sont intéressants.
C'est extraordinaire, celle-là, quand même. Est-ce, oui. Est-ce qu'on peut dire qu'elle définit votre...
Je crois qu'elle est tout à fait... Je crois profondément à mon pessimisme, c'est-à-dire il m'arrive de dire « le pire est toujours sûr ».
C'est l'historien qui parle.
Le pire est toujours sûr, et en même temps... Si vous voulez, il y a une phrase de De Gaulle que je cite souvent, De Gaulle qui vient d'être battu au référendum du 29 avril 1969, vous le savez, pour ne pas être mêlé à la campagne électorale, se retire en Irlande. Et l'ambassadeur de France en Irlande est un ancien de la France libre et lui donne les mémoires de guerre à dédicacer. Et De Gaulle écrit trois phrases sur ces mémoires de guerre. On a le volume. Hein. La première, il cite... un proverbe médiéval, puis il écrit « Vous qui avez lu ce livre, priez pour moi ». Et ensuite, il cite une phrase de Nietzsche que je trouve admirable. « Rien ne vaut rien, il ne se passe rien, et cependant tout arrive, et c'est indifférent ». C'est De Gaulle qui écrit ça, au soir de sa vie, il est vrai, après un échec. Mais je pense que ça a été toujours présent dans sa vie, probablement lié... au fait que, j'allais dire lui aussi, vous voyez, l'identification procède involontairement, que lui aussi devait considérer comme un signe particulièrement tragique l'handicap de sa fille. Et moi, je vais vous faire une confidence que j'ai rarement faite, mais qui est, je vais faire quand même, puisque vous êtes un bon intervieweur. Avant d'écrire la vie de De Gaulle, je suis allé à Colombey les deux églises. Et... Je suis traîné dans ce village et je suis entré dans ce cimetière. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais la tombe de De Gaulle est extrêmement simple et il est enterré avec sa fille qui s'appelle Anne. Et la mienne s'appelait Anne. La mienne, enfin ma fille s'appelait Anne. Et là, avant d'écrire, j'ai éclaté en sanglots, sans raison aucune. si vous voulez, mais parce que alors que je n'avais pas encore, j'avais lu beaucoup de Gaulle, mais je n'avais rien écrit sur lui, parce qu'il m'a semblé que c'était ça, au fond, qui expliquait cette phrase de Nietzsche, écrite par de Gaulle en 1969.
Max Callot, merci de cette sincérité. Je rappelle que vous venez de publier deux ouvrages, donc dans la seconde partie de l'année 2009. Chez Fayard, un livre intitulé « Le roman des rois », un livre qui, à travers l'histoire des Villeneuve de Thorenc, raconte ce que fut le destin des trois grands rois capétiens qui ont marqué notre histoire. Donc, vous les connaissez, Philippe Auguste, Saint-Louis et Philippe le Bel. Le second ouvrage, qui est publié, lui, par CNRS Éditions et qui s'intitule « Histoire particulière », c'est un livre d'entretien réalisé avec le journaliste Paul-François Paoli et à travers lesquels on apprend beaucoup de choses donc, sur Max Callot. Merci à tous et à toutes d'être avec nous.